Chapitre 12. Le vrombissement de la circulation sur la Södertäljevägen s'atténue légèrement lorsque Hugo contourne le complexe d'immeubles couleur noisette. Il compose le code du porche et entre. Dans la pénombre de la cage d'escalier, devant la porte d'Olga, il déboutonne son manteau et repousse ses cheveux sur son visage. Son nez et ses joues sont rouges à cause du froid. Lorsqu'il appuie sur le bouton de la sonnette, usé par des milliers de pressions, le signal retentit à travers la fente de la boîte aux lettres, bientôt suivi par des bruits de pas traînant sur le lino. Le verrou cliquette, et la porte s'ouvre sur Olga.
« Hugo, » dit-elle, le visage fermé, « tu ne peux pas débarquer comme ça. Il faut que tu m'appelles avant.
Je sais, je suis désolé, mais je pétais les plombs chez moi, fallait que je sorte. Puis, j'ai eu peur que tu me dises non si je t'appelais. »
Elle lui sourit, mais son visage reste tendu.
« Je ne te dis jamais non. Mais j'ai une vie, je travaille, j'ai des trucs à gérer. Tu veux que je reparte ?»«
Je ne dis pas que je ne suis pas contente de te voir. »«
Je le suis, » dit-elle un peu plus chaleureusement avant de le serrer dans ses bras. Il enlève ses bottes, les pose sur le meuble à chaussures, accroche son manteau et la regarde. Olga va avoir 36 ans en janvier. Elle mesure à peine 1m58, son corps est fin, avec des muscles bien dessinés et un cou élancé. Ses cheveux blonds et ondulés encadrent un visage particulièrement symétrique, soigneusement maquillé. Elle a un piercing en argent sur le sourcil, un autre sur le nez et deux sur les joues. Elle porte un pantalon en cuir noir et une chemise blanche en lin partiellement déboutonnée et des chaussons. À travers le tissu léger, on devine ses bras tatoués et sa poitrine nue.
« Comment c'était, la détention ?» demande-t-elle.
« Ça va, » répond-il.
Elle fait quelques pas en arrière et le regarde avec un sourire en coin.
« Tu es un dur maintenant, » dit-elle.
« Ça se voit ?»«
Non, »
rit-elle. Hugo la suit jusqu'à la cuisine. Entre ses omoplates, un tatouage héraldique représente un grand aigle couronné, et le long de ses bras serpentent des guirlandes d'herbes sauvages en fleurs. Sur la table de la cuisine, un verre de vin vide est posé à côté de son ordinateur. Une odeur d'ail, de cumin et de fenouil s'échappe d'une cocotte en fonte sur la cuisinière.
« Tu as mangé ?» demande-t-elle.
« Non, mais ça va.
C'est encore chaud si tu en veux. »
Olga s'assied, referme son ordinateur et le pose près d'une fougère sur le rebord de la fenêtre. Hugo prend une assiette, des couverts, un verre, et pose une serviette en papier sur la table.
« Côté gauche, » dit-elle.
Il déplace la serviette, va chercher la bouteille de vin dans le frigo et remplit les deux verres.
« Merci. »
Il se sert dans la cocotte et s'assied.
« Alors, qu'est-ce qui se passe chez toi ?» demande-t-elle.
« J'en peux plus. » Mon père n'arrête pas de me sermonner quand Agnetta est là. C'est tellement énervant, putain.
Elle le regarde tandis qu'il commence à manger le curry de lentilles.
Tu vas finir par te faire virer.
Il a l'obligation de subvenir à mes besoins le temps de mes études.
Tu en fais?
Tu veux savoir si je suis vraiment sérieux dans mes études?
Demande-t-il en souriant.
C'est important, dit-elle. Là, je commence à avoir un peu trop de mer, non?
Olga rit et se penche en arrière, sa chemise en lin s'ouvre et se prend dans les piercings en argent de ses mamelons.
« Laquelle est la meilleure ?» demande-t-elle.
« Non mais sérieusement, rien que de parler avec Agnetta, je me sens coupable envers ma mère.
Ta vraie mère t'a trahi, pas l'inverse.
Elle a choisi la drogue, c'est une maladie »
l'interrompt-il.
« Je sais, mais quand même.
Tous les deux, vous allez la ressentir cette trahison, quand vous vous retrouverez. » Du moins au début.
Hugo et Olga ont le projet de partir à Montréal et de louer une voiture pour aller chez les parents de Claire, à Grand Village. Si elle n'y vit plus, ils trouveront sûrement quelqu'un qui saura où elle a déménagé. Olga lui a conseillé une approche en douceur, de montrer à Claire qu'il n'est pas là pour lui réclamer quoi que ce soit, ni pour l'accuser ou la culpabiliser, mais juste pour repartir à zéro, la connaître à nouveau. Renouer des liens entre adultes.
« Tu
Tu devrais demander des dommages et intérêts à la police pour t'avoir enfermé pour rien, dit-elle en faisant tourner son vin dans son verre.
Non, je m'en fous.
Pour notre voyage, je veux dire. J'ai vu que tu avais encore viré de l'argent, dit Hugo en posant ses couverts.
Ouais, un peu.
Ça le stresse qu'elle économise tout ce qu'elle peut et mette tout son argent dans ce voyage. Ce n'est pas juste qu'elle se prive autant pour lui.
On doit aussi vivre maintenant, dit-il.
C'est ce qu'on fait. Je crois qu'on vit bien, non? Mais à ce rythme, on ne réussira jamais à économiser suffisamment.
Je sais, je vais régler ça. Je vais trouver le moyen de financer ma part.
De mon côté, j'ai quelques plans en cours, au club, qui pourraient rapporter un peu plus.
Hugo touche la pièce en argent suspendue à son cou et pense au fait qu'il n'a pas encore parlé de son projet à son père. Il sera probablement triste pour Agnetta, mais finira par lui dire que c'est une bonne décision. Il l'aidera financièrement, peut-être même qu'il voudra l'accompagner, mais Hugo sent qu'il doit partir seul, que ça ne concerne que lui et sa mère.
Raconte-moi encore l'histoire de la caravane. J'avais un peu de mal à suivre quand tu m'as appelé, dit Olga en buvant une gorgée de vin.
Qu'est-ce que tu veux savoir?
Tu t'es réveillé là-bas et...
Hugo secoue la tête.
Ça s'est passé hyper vite. J'avais encore rêvé de l'homme squelette. Et puis, j'ai été réveillé par un coup de feu. Un des flics a tiré dans le sol devant moi. Après, ils m'ont traîné dehors, m'ont mis des menottes, m'ont fouillé la totale, quoi. J'ai pas eu le temps de voir grand-chose, mais c'était plein de sang. Il y avait un bras coupé à côté de moi. C'était complètement dingue. Ensuite, ils m'ont emmené au centre de détention. Un agent a pris mes vêtements, fait tout un tas de prélèvements, tu sais, d'urine, de sang, de poils et sous les ongles.
Il pensait que c'était toi qui avais fait ça.
C'est pas si étonnant, en fait. J'ai même pas réussi à leur expliquer pourquoi j'étais là. J'avais fait une crise de somnambulisme.
Mais pourquoi aller justement dans cette caravane?
J'en sais rien. J'avais l'habitude de traîner par là-bas quand j'étais petit. Je sais vraiment pas ce que les flics ont pensé.
T'es encore dans une de ces périodes de crise dont tu m'as parlé? Demande-t-elle.
Je crois, ouais. J'ai parlé avec mon médecin.
Le docteur Grint?
Il voulait que je passe quelques nuits à la clinique dès que possible pour voir si quelque chose avait changé dans mon petit cerveau. Mais j'ai pas le temps pour ça maintenant.
Imagine qu'il programme des somnambules pour tuer des gens, dit Olga en remplissant leur verre.
Ce serait un super plan, sourit Hugo.
Moi j'y crois, dit-elle en réprimant un sourire.
Ça expliquerait tout.
C'est peut-être pour l'armée ou les services secrets.
Je sais pas si je vais oser te laisser dormir ici. Si tu me dépeçais pendant mon sommeil,
dis pas ça.
Pendant que Hugo débarrasse la table et fait la vaisselle, Olga s'installe devant son ordinateur. Quand il a fini, il s'appuie contre l'évier et la regarde jusqu'à ce qu'elle relève les yeux.
Quoi?
T'es juste tellement belle.
Tu voudrais montrer à Olga ce que tu as appris? Demande-t-elle en se levant de table.
Maintenant?
T'as autre chose à faire?
Elle retire ses pantoufles et se met sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Il caresse ses seins sous sa chemise.
Il y a 7 mois, Olga a commencé à commenter les publications de Hugo sur les réseaux sociaux. Ils se sont donné rendez-vous dans un bar et ont entamé une relation amoureuse totalement libre. Elle a pris la responsabilité de lui enseigner le sexe, lui a dit qu'il devait se raser, lui a expliqué que le clitoris n'est pas juste ce petit poids visible, mais tout un complexe qui s'étend autour et dans le vagin. Il se souvient du jour où elle lui a affirmé d'une voix posée que tout ce qui se trouve chez l'homme se trouve également chez la femme, mais que le gland de la femme a 5 fois plus de cellules sensorielles que celui de l'homme et qu'il faut être très délicat et ne pas le toucher directement. Le moment venu, quand tu vois qu'il est prêt, entoure doucement la zone avec tes lèvres, lèche délicatement l'encoche, a-t-elle expliqué. Vas-y délicatement, sois réceptif et laisse-le te diriger et là, ce sera parfait.
Olga l'embrasse dans le cou et lui murmure qu'il devrait aller dans le lit. Elle fait glisser son pantalon en cuir, ôte sa culotte et se dirige vers la chambre. Le fin tissu en lin de son chemisier bouge autour de son corps. Sur sa fesse droite est tatoué le nom de son ancien petit ami, Yatsek. Elle a promis de le faire enlever dès qu'elle aura le temps et l'argent. Hugo la suit à travers le salon où de longs rideaux bordeaux sont suspendus devant la fenêtre et la porte du balcon. À côté du canapé, un petit chariot en laiton qu'elle a trouvé dans une benne à ordures et réparé est garni de bouteilles de vodka polonaise et de liqueur de cerise. Il marche derrière elle sur le lino gris du couloir. Il passe devant la salle de bain et arrive dans la chambre à coucher. Une bougie brûle sur la commode. La flamme vacille quand ils franchissent le seuil. Olga jette son chemisier sur un tabouret, tire les couvertures et s'allonge nue dans le grand lit, les chevilles croisées et les bras derrière la tête. La lumière se déplace lentement sur son corps. Hugo se déshabille, rampe sur elle et lui écarte les cuisses. Il commence par embrasser son pubis, puis lève les yeux. Elle lui sourit et ajuste l'oreiller derrière sa nuque. « T'as déjà trouvé le chemin, mon petit prince ?» Il la lèche un long moment jusqu'à ce qu'elle lui repousse la tête, roule sur le ventre et se mette à quatre pattes. Il se glisse alors en elle par derrière et fait de lents va-et-vient tandis qu'elle se caresse d'une main. « T'arrête pas !» murmure-t-elle. Hugo voit le nom de Yatsek trembler encore et encore. Il accélère le rythme. Son collier se met à rebondir contre son torse. La respiration d'Olga devient de plus en plus sonore tandis que son dos blanchit. La flamme de la bougie s'agite et la lumière frémit. Olga pousse un long gémissement puis s'affaisse sur le ventre. Il essaie de rester en elle, mais elle roule sur le côté. Ses cuisses tremblent. Elle se tient le sexe à deux mains, haletante. Au bout d'un moment, elle glisse sur le dos, se détend puis le regarde. Vous êtes fatigué, sourit-elle. Elle écarte de nouveau les cuisses. Il s'allonge sur elle et la pénètre. Il y a chez lui une sorte de détresse juvénile lorsqu'il se met à jouir, et comme toujours, elle le laisse éjaculer en elle.